Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
D'abord, les tensions qui montent toujours au Venezuela.
Ça monte toujours. Si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu 300 blessés, dont 3 morts. C'est l'armée du Venezuela qui a tiré sur des manifestants qui se trouvaient à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Et surtout, et c'est ça qui est très embêtant, c'est qu'il y a des discussions en ce moment pour déloger Maduro par la force. C'est le groupe de Lima qui est en ce moment à Bogota, qui est la capitale de la Colombie, qui est réuni là. Et à la demande d'un certain nombre de leaders du Venezuela, on va discuter d'un possible recours à la force. Et le vice-président américain Pence est là et il va aussi proposer. Enfin, on va voir ce qui va arriver. On sait que les autorités américaines n'ont pas fermé la porte à un recours à la force. Il y a des pays qui sont contre, comme le Chili, par exemple, les pays européens en général. Mais ça s'en va de plus en plus dans cette direction-là.
D'ailleurs, le secrétaire d'État, Pompeo, a dit quelque chose comme « on va faire ce qu'on a à faire ».
Oui, oui,
là.
Absolument. Tu sais, on surveille aussi les défections du côté de l'armée vénézuélienne. Ces dernières 48 heures, il y a 156 soldats qui ont fait défection. Évidemment, ce n'est pas beaucoup sur une armée de 350 000 personnes, mais tout de même, ça donne une indication du malaise qu'il y a dans l'armée colombienne et dans la population. Ah, et puis, il va falloir surveiller aussi le retour de Juan Guaido au Venezuela, parce qu'il est allé en Colombie pour le grand concert dont on parlait vendredi dernier,
mais
il n'avait pas le droit de sortir. Le président Maduro avait interdit aux Vénézuéliens de sortir. Donc, il a désobéi. Donc, il pourrait être emprisonné. Et s'il était emprisonné, on pense bien que les Vénézuéliens descendraient massivement dans les rues.
Oui, puis je vais te dire, des pays qui envisagent l'intervention militaire pourraient voir dans cet emprisonnement
le prétexte
pour effectivement envahir le Venezuela.
Absolument.
OK, parle-nous un petit peu de Trump et de Kim Jong-un.
Oui.
Ils doivent se rencontrer au Vietnam. Kim Jong-un, présentement, est en train. Il a pris le train de la Corée jusqu'au Vietnam. C'est un long voyage.
Un gros train blindé qui voyage à 60 km à l'heure, qui doit donner des maux de tête terribles aux Chinois parce que ça bouscule tous les horaires de train à l'intérieur de la Chine. En tout cas, il doit arriver à Hanoï, au Vietnam. Trump prend l'avion aussi pour se rendre à Hanoï. Et c'est d'ailleurs assez fort que ces deux-là se rencontrent au Vietnam à Hanoï. Je te signale, entre autres choses, que le président Trump va rencontrer le président vietnamien aussi à cette occasion-là. Et c'est peut-être pas aussi historique que de rencontrer Kim Jong-un, mais tout de même, c'est quelque chose. Alors, la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table? Et déjà, la Maison-Blanche abaisse les attentes depuis quelques jours. On commence à dire, vous savez, il faudrait peut-être une troisième rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Oui, c'est vrai, il faut rien précipiter, a déclaré Trump avant son départ pour Hanoï. Il faut rien précipiter dans les négociations sur la dénucléarisation. Moi, je suis très content, dit Trump, qu'il n'y ait pas d'autres essais nucléaires, qu'il n'y ait pas d'autres essais de missiles. Mais tu sais, ils n'ont pas besoin d'autres essais nucléaires, puis ils n'ont probablement pas besoin d'essais de missiles non plus à nouveau. Mais donc, on a abaissé les attentes. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'à mesure que les élections de 2020 approchent, Donald Trump va vouloir des résultats. Et donc, il s'affaiblit à mesure que l'échéancier de 2020 arrive. Et donc, ça profite ça, à Kim Jong-un, qui a tout intérêt à laisser traîner les négociations pour essayer d'arracher toutes sortes de concessions à Donald Trump pour que Trump puisse revenir aux États-Unis éventuellement devant son électorat et dire « Voyez-vous, j'ai réglé le problème ou j'ai vraiment commencé à le régler. »
Mettons que je suis un petit peu sceptique, moi, là.
Ah, mais sur ce qu'il va faire,
J'ai toujours pensé que Kim Jong-un n'allait jamais renoncer à l'arme nucléaire. C'est ce qui lui donne son rapport de force.
J'en suis persuadé. Hein?
Mais en même temps, il y a besoin. C'est toi qui nous apprenais qu'ils avaient un problème avec une pénurie d'aliments, n'est-ce pas,
en
Corée
absolument.
Du Nord.
Exact.
Et puis, on sait que les sanctions leur font très mal. Alors, peut-être qu'ils vont finir par céder ça. On verra bien. Par ailleurs, Trump qui a renoncé ou qui a repoussé l'application des tarifs supplémentaires sur les produits chinois parce que les négociations, dit-il, vont bien.
Même qu'aux dernières nouvelles, il a déclaré qu'il s'attendait à signer quelque chose avec Xi Jinping. Donc, les les tarifs, les nouveaux tarifs qui devaient entrer en vigueur le 1er mars sont reportés. La bourse a évidemment extrêmement bien réagi à New York, plus 5%. Mmh. Tout le monde est content. Il y a juste un dossier où, semble-t-il, ça bloque vraiment, c'est la propriété intellectuelle. Là-dessus, on ne s'entend pas. La propriété intellectuelle et, comme je te le disais vendredi dernier aussi, la réforme du système économique de la Chine. Je ne pense pas que ça bouge beaucoup là-dessus non plus.
Notamment des propriétés d'État, hein, c'est
exactement,
ça?
Exactement.
Voilà, non, ça, effectivement, ça remet en question carrément l'emprise économique du Parti communiste chinois. En terminant, Mme May, la première ministre de Grande-Bretagne, qui demande un nouveau délai dans le dossier du Brexit, ça fait pas l'affaire de beaucoup de gens en Grande-Bretagne.
Non, ils sont pas contents du tout. En fait, elle veut reporter le vote sur le Brexit au 12 mars. Et en même temps, quand même, elle était en ce moment en Égypte, où il y a un sommet qui réunit plusieurs dirigeants européens. Elle a rencontré M. Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, qui est président de la Commission européenne. Ouais. Et il semble, Juncker a dit, écoutez, les négociations font de bons progrès. Et
donc, elle pourrait revenir au Parlement de Westminster avec une entente bonifiée avec sur le Brexit.
Oui, avec des bonnes nouvelles. Mais Tusk a dit, écoutez, oui, ça va bien, mais il faudrait, je pense, aller au-delà de la date butoir du 29 mars. Donc, lui-même propose de remettre cette date butoir du 29 mars. Bon. Donc, il y a quand même des choses qui fonctionnent. C'est bien pour tout le monde, en fait, ce qui est en train de se passer, là, semble-t-il.
Ouais, ben là, faudrait pas qu'elle traîne trop longtemps, là, parce que, je veux dire, en Grande-Bretagne, quand tu lis ce qui se passe là-bas, là, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup d'impatience envers Madame la Première ministre. Mais bon.
Oui, il y a des défections et dans le Parti conservateur et dans l'opposition chez les travaillistes. C'est voilà, très, très exactement. Volatile comme, tu as raison, comme atmosphère politique.
Merci Loïc Tassé, merci beaucoup.
Je t'en prie, à demain.
À demain. Au retour de la pause, on va faire le point sur ce carambolage-là, sur la 25, sur la 15, dis-je bien, pardonnez-moi, sur la 15. Il y a eu quoi, au moins une vingtaine là, de véhicules impliqués. On va parler à quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé et on aura aussi le compte-rendu de Guylaine Delorme, notre chroniqueur à la circulation, qui va nous donner les toutes dernières informations.